Coucou, c'est Chantal Goya, vous écoutez le Geek, c'est chic.
Bonsoir et bienvenue dans le Geek, c'est chic, l'émission de pop culture sur D4B. Vous nous écoutez sur 90.4 FM dans le Pays Mélois ainsi que sur 101.1 dans le New York. Vous pouvez aussi retrouver cette émission en direct sur internet sur le site de D4B et retrouver les émissions précédentes sur le Mixcloud et sur notre Facebook.
Chers amis, bonjour et bienvenue, re-bienvenue dans le Geek C'est Chic, nouvelle saison, nouvelle formule. Il est toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot, c'est mon Alex, comment ça va Alex ?
Eh ben écoute, yo, ça va très bien parce que... Bah, content de te retrouver déjà pour refaire cette émission, manqué, et puis on avait tellement de trucs, et puis la radio c'est nickel pour pouvoir vivre ses passions. Donc nous voilà de retour, avec une nouvelle formule qui sera plus bande dessinée, mais on touchera à tous les types de bande dessinée que nous aimons, ça veut dire la BD franco-belge, le manga, le comics, et pourquoi pas les BD satiriques, tout ce qui
est lié à la bande dessinée en fait. C'est notre nouveau credo, pardon. Oui. Et surtout, bah, nouvelle formule, tu le disais, avec nouveau format de durée aussi. Oui. Tu peux expliquer ça, nos amis ?
Oui, parce que avant on était sur une heure au tout début, une heure par semaine. C'était un peu long pour la fabrication et puis pour la création, que maintenant nous serons à une demi-heure. Et avec des interviews sur la deuxième semaine pour vous montrer qu'on a aussi rencontré les auteurs. Et qui mieux qu'un auteur pour parler de son œuvre. Donc que ça soit scénariste ou dessinateur. Donc voilà pour cette nouvelle mise en bouche.
Bah oui, puis vous nous avez manqué aussi, bande de coquins. Ça fait oui. Un an de pause.
C'est long.
C'est long.
C'était long. Donc maintenant, on revient en forme. Et on commence par quoi ?
Et si on commençait par la BD franco-belge ? Quelques petites nouveautés en BD franco-belge. Qu'est-ce que t'as sous le coude, toi ?
Alors, j'ai une BD franco-belge qui est un peu japonaise.
T'es pas dans le compliqué, toi, tout de suite.
Non, mais j'aime bien la fusion des genres. Donc, cette nouvelle BD franco-belge qui... Tu l'as bien fait, hein, fusion de Dragon Ball.
Ouais, un jour, il faudra qu'on se filme, quand même.
Ouais, ça sera pas mal. Hein. Je trouve que c'est vraiment pas mal.
On serait obligé de s'habiller.
Nous sommes habillés, mais ce qu'il voulait dire, c'est avoir la tenue de combat. Alors, moi, j'ai une blouse au boulot. Là, ça sera plutôt un vêtement de Saiyan. Ou là, sur ce coup-là, nous avons plutôt du Saint Seiya. Comme vous le savez, la franchise Saint Seiya, chaque année, nous propose quelque chose de différent. Après, Saint Tiacho. Et puis, le dernier Darkwing, récemment, nous avons Saint Seiya, fait par Jérôme Alquier et Arnaud Dolène, qui nous propose une histoire totalement inédite. Alors, au tout début, l'an dernier, quand ils ont sorti le Time Odyssey, qui sera en 5 tomes, bah, j'étais pas vraiment emballé, parce que je trouvais que ça allait être un peu alambiqué, et par rapport à Saint Tiacho, une histoire qui s'entremêle dans la même lignée que... Bah, on intercale des histoires dans une histoire déjà existante, et donc des fois on peut se dire, est-ce que c'est raccord ou pas raccord, comme il y a des puristes, ou des haters, comme vous voulez. Et donc voilà, donc cette histoire-là, la première idée, et en plus chaque tome est basé sur un chevalier différent. Donc le premier tome était sur Phoenix. L'histoire était très bien menée, avec des petits points de détail qui n'existaient pas dans l'histoire d'origine. Les dessins sont magnifiques, vraiment du bel ouvrage. Mais ce côté un petit peu... on rentre dans des interstices laissés vacants par l'histoire d'origine était un peu bizarroïde. Là, le deuxième tome est sur Shun et se passe juste après la bataille du sanctuaire. Et ben, mine de rien, je l'ai dévoré en très peu de temps. On découvre pas mal de choses. En plus, comme c'est adoubé par l'auteur d'origine, Masami Kumada, bah écoutez, c'est canon. Le format, il est pas gênant. L'histoire, bah, comme je vous l'ai dit, est vraiment pas mal. Ça rajoute des choses qu'on n'avait pas du tout dans l'histoire d'origine. Et ben, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous conseille de vous plonger là-dedans. Le seul défaut qu'il y a, parce qu'il faut bien qu'il y ait un défaut quand même, tout n'est pas parfait, c'est qu'il faut attendre un an pour avoir la suite. Donc ça veut dire que si il n'embraye pas deux bouquins par an, bah, il faudra 5 ans pour que l'histoire soit faite. Or des fois, une histoire complète de Saint Seiya dans les trucs annexes dure 5 ans, mais là on est sur du 48 pages à peu près. Donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est tellement bien travaillé que l'attente peut se faire. Sachez que chaque bouquin a une édition limitée. Qui dit limité dit spéculation. Donc achetez-la dès que ça sort. Elle coûte un peu plus cher. Il y a un joli fourreau qui ressemble à une Pandera Box de Saint Seiya. Donc voilà. Et quoi dire d'autre ? Il y a dedans, vous avez aussi des belles illustrations, un petit feuillet en plus avec un petit bout d'histoire en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est vrai que pour le puriste, c'est le nec plus ultra. Le bémol, c'est que certaines personnes s'amusent à acheter ces modèles qui coûtent 35€ pour les revendre 90 voire plus, juste pour se faire un peu de thune. Donc je trouve ça dommage. Ou certains fans ne peuvent pas avoir leur édition limitée parce qu'ils sont vraiment fans et que des gens peu scrupuleux se permettent de faire de la spéculation là-dessus, sachant que ce n'est que de la BD, sans dénigrer bien sûr.
Non, mais de manière générale, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans d'autres domaines. Enfin,
le jeu vidéo,
tout ce qui est produits dérivés aussi. C'est assez dommageable parce que du coup, on peut, sur le moment, ne pas avoir l'argent nécessaire, parce que bon, c'est quand même un budget, la culture, donc on ne peut pas se leurrer non plus.
La culture n'est pas gratuite, que ça soit
parce
musique.
Il faut que les artistes vivent.
Exactement.
C'est ça surtout. Hein, donc pensez aux artistes. Hein, vous savez qu'il y a énormément de romanciers et d'auteurs de bande dessinée qui ne mangent pas leur faim en France. Ce qui est lamentable, parce qu'on bénéficie, nous, de leur travail pour notre divertissement et notre culture. Pensez-y, et c'est vrai que ce jeu malsain d'enrichissement personnel par le système du rachat et de la revente sur des plateformes d'occasion pour lesquelles on ne fera pas de publicité ici, c'est dommage, parce que on peut ne pas avoir assez d'argent ce mois-ci pour acheter cette version collector ou pour l'offrir à quelqu'un parce qu'on sait que ça fera plaisir, et on est obligé de capitaliser ou de multiplier le prix par 3, voire 4, parfois on a vu des choses assez astronomiques sur certains trucs. C'est dommage, mais bon, c'est qu'une minorité, heureusement, parce que les vrais fans, eux, se comportent quand même de manière très civilisée.
Et puis si on restait un petit peu
on
dans
reste sur
Saint
Seiya du coup, ouais. On va parler manga maintenant. Alors Alexandre, il nous a lu Darkwing de Saint Seiya, toujours canon ou pas ça, canon ?
Non, pas canon.
Pas canon.
Pas canon, pas terrible, mais ça peut plaire à un certain public qui n'est pas forcément fan hardcore de Saint Seiya, et que c'est, comment dire ?
Ah, il me semble que c'est un isekai, c'est ça ?
Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais étant donné que je ne suis pas... je suis beaucoup moins manga qu'à une époque, donc ça veut dire que certains termes que je n'ai pas suivis. Alors je sais que ça avait existé pour Yamcha dans Dragon Ball, où un fan avait réussi à se réincarner dans la peau de Yamcha pour pouvoir éviter qu'il se fasse tuer à chaque fois, parce que c'est le plus faible.
Pour nos amis auditeurs, Alexandre, en fait, en gros, le isekai, c'est un terme qui dérive du terme fantastique en japonais, et l'idée est de transposer quelqu'un de notre réalité, de manière dessinée bien sûr, dans un monde d'heroic fantasy ou dans un univers culturel connu, pour jouer sur le décalage des codes, en fait. Par exemple, il y a Royal King qui existe, qui est la transposition d'un dictateur qui ressemble fortement à un certain Vladimir P. dans un monde d'heroic fantasy qu'il décide de domestiquer. Vous avez City Hunter Rebirth également, ouais. Chez Kiyun, où une lectrice grande fan de City Hunter se retrouve par accident plongée dans le manga et qu'elle revit les meilleurs chapitres qu'elle a lus. Donc elle va parfois, de manière involontaire, perturber le scénario prévu par Tsukasa Ojo, c'est plutôt marrant. Donc là, Darkwing serait dans ce registre-là.
Mais en gros, t'as des âmes de chevaliers dans des corps humains, et donc ils ont des mémoires de ce qui s'est passé avant. Le problème, c'est que Seiya, c'est pas Seiya. Le Saori Kido, que nous on connaît, c'est un autre personnage dans ce tome. Et donc c'est vrai que si on est fan hardcore... Voilà. Après, il y a la manière aussi dont l'histoire est emmenée, où je trouve que c'est long. Dans tout ce qui est Saint Seiya, quand vous avez tout l'univers Saint Seiya, quand un chevalier d'or des Gémeaux ressemble à, pas forcément trait pour trait, mais à quelque chose d'une réincarnation, donc c'est très très proche. Que là, on est sur des têtes différentes. Les armures sont les mêmes. Alors, l'armure est très bien dessinée, il n'y a pas de souci. Mais après, en termes de dessin par rapport à ce qu'on a pu connaître, alors, je veux pas faire mon vieux con, je veux pas faire le mec hyper, il faut que ça soit à la ligne près, dans les adaptations de, quand je vois d'autres adaptations, si ça me plaît pas, ça me plaît pas, si ça me plaît, bon voilà, mais je vais pas, du moment que ça porte le nom, je vais pas dire, ouais, tout est génial ou tout est nul. Mais là, je trouve que cette œuvre n'est pas forcément destinée aux fans de Saint Seiya de la première heure. Je dirais que, par exemple, quelqu'un de plus jeune
avec Omega,
peut rentrer... du style Omega, peut rentrer dans cet univers-là, de dire, voilà, c'est une histoire à part. Si ça vous emmène après dans l'univers Saint Seiya général, avec l'histoire d'origine, où, pour quelqu'un de jeune, les dessins sont quand même datés, et que Kurumada a quand même des gros problèmes de dessin sur les mains, mais normalement, il y a une édition... ultime, perfect, ou je sais pas comment on peut les dire, où tous les problèmes de dessin seront gommés pour que toutes les imperfections soient refaites, un peu comme Dragon Ball Z Kai, on va dire. Mmh. Bah pourquoi pas de revoir, et peut-être ça pourrait vous plaire. Mais sur cette œuvre-là, je pense que c'est un public jeune qui est ciblé, et ce qui est dommage, ça n'apporte pas. Moi au début, je pensais qu'on allait avoir la création de l'armée d'Hadès. Et pas du tout.
Kai classique, en fait, avec un design, tu le disais Alexandre, qui est très très proche de ce que le jeune lectorat de manga actuel peut avoir, en termes de graphisme, en termes de pauvreté de décor aussi, je serais tenté de dire, parce que c'est quand même très... Bon, avec des clins d'œil, forcément, au lectorat plus âgé que nous sommes, avec voilà, la technique de Another Dimension, qui est, ouais, fortement, qui est bien représentée, qui reprend l'iconographie du manga de départ. Voilà, bon, ça... Voilà, en gros, toi, entre Darkwing, Saint Seiya, donc chez Kurokawa... de Shinchō Ueda ou Saint Seiya, les Chevaliers Zodiac, Time Odyssey, publié chez Kana dans la collection classique de notre ami Jérôme Aquier. Tu aurais une préférence pour laquelle ?
Oh ben moi pour Time Odyssey sans problème. Et même j'ai dévoré le Time Odyssey pour son scénario, pour ses dessins. C'est quand j'étais à la fin, je dis ah ouais déjà. Donc non, c'est quelque chose qui est cool. On apprend des petites choses comme ces chaînes sur le chevalier d'Andromède, et puis on voit le méchant de l'histoire. On voit là où il veut en venir un peu plus, et donc le complot
qui sourdit, ouais,
voilà, arrive de très voilà, bien, comment bien. Ça va là. Que Darkwing, bah pas top. À noter que bon, là on vous parle du tome numéro 1, sachez que on est arrivé au tome 3 en ce moment. Donc pour ceux qui voudraient jeter un œil ou deux sur cette œuvre, vous avez de quoi manger pour le moment.
Oui, tout à fait. Et rappelez-vous également, chers amis, que Jérôme Alquier, c'est celui qui avait repris toujours chez Kana dans la collection classique ce Capitaine Albator,
ouais,
hein, qui avait fait un très très gros travail et qui a participé à l'hommage, qui s'appelle Hommage à Leiji Matsumoto, édité aux éditions Inis Éditions, qui est un très très bel ouvrage où beaucoup de mangaka, beaucoup d'auteurs français, beaucoup d'animateurs, de youtubeurs ont été interviewés. Alors en général, on n'est jamais déçu par un bouquin qui est publié chez Inis Éditions. Ils font de très très beaux livres sur la culture pop, sur le manga de manière générale, ou l'animation japonaise, et là l'hommage était vraiment c'est un beau livre si vous aimez Matsumoto. Honnêtement, on va parler au retour bande dessinée franco-belge, et à destination des plus jeunes lecteurs mais également des moins jeunes. Les éditions La Gouttière proposent depuis quelques temps, depuis 2022 pour être exact, la reprise d'une série pour enfants qui s'appelle Agar, enquêteur de l'histoire. Le tome 3 est sorti il y a très peu de temps, début octobre, si ma mémoire est bonne. Donc le pitch est très simple, vous suivez un jeune homme qui est passionné par l'histoire antique et préhistorique, par l'archéologie également, et qui a un léger petit souci, il souffre de narcolepsie. Sauf que lorsqu'il s'endort au contact d'un livre ou d'un objet qui est lié à une période historique, il se transpose dans cette période, d'où le lien du coup avec l'isekai japonais. Et il va vivre quelques aventures où il retombe sur ses ancêtres ou sur les ancêtres de ses camarades de classe, ce qui crée des petits moments de gags qui sont plutôt sympas. Et c'est toujours l'occasion d'apprendre quelque chose. Chaque chapitre va se clôturer par une planche qui, elle, présente des outils, des objets ou des personnages qu'on vient de croiser dans le chapitre, une fois qu'on a lu. Ce qui fait qu'on a la combinaison parfaite, oserais-je dire, entre la BD sympathique d'aventure pour enfants, il y en a des tonnes hein, dans la BD franco-belge, avec la petite vocation pédagogique qui est derrière. Alors, je disais reprise des éditions La Gouttière parce qu'au début, c'était fait par une maison d'édition de la Somme en lien avec le département pour mettre en valeur les sites patrimoniaux de leur localité. Sachez également que chaque site est présent et bien détaillé dans chaque album. Donc il y a même parfois des guides ou des responsables de sites qui sont croqués par le dessinateur, ce qui est plutôt sympa à voir. Et honnêtement, le trait, il y a quelque chose de noblesque, moi je trouve. Ça, au début, la première fois que j'ai vu la couverture, je me suis dit, tiens, c'est Nob qui dessine, en fait, non, ce n'est pas lui. On a affaire à un autre tandem. Il s'agit de Mathieu Lavallée qui, lui, va signer le scénario, mais c'est Greg Blondin qui, lui, assure toute la partie dessin. Alors, Greg Blondin, si vous connaissez, par exemple, bon, il avait participé au collectif Cicatrices de Guerre. Il a aussi participé à un autre album que je vous conseille pour l'avoir lu et adoré. Et là, ici, on est chez Bambou Édition, chez Grand Angle. Ça s'appelle Dérangé. Un très, très bel ouvrage. Vraiment, moi, j'ai un gros coup de cœur quand il était sorti, celui-ci. Donc on reconnaît bien le trait de Monsieur Blondin, et là c'est avec un peu plus adolescent adulte par rapport à Agar. Mais Agar, c'est vraiment une série qui peut être lisible par tout le monde. C'est-à-dire, on est autant un jeune lecteur, à peu près 7-8 ans ici, qui aimerait un peu l'histoire, ou pas du tout, parce qu'il y a ce côté gaguesque aussi qui fait que voilà, on se demande mais comment est-ce qu'il va faire Agar, parce qu'il se met dans des positions mais alors, complètement démentielles. On dit mais c'est pas possible, il va se faire trucider par des hommes des cavernes, ou alors les légionnaires romains vont lui faire sa fête. Et finalement, il y a toujours des petites astuces scénaristiques qui permettent du coup de le faire revenir dans le présent. Et le tome 3, du coup le dernier tome là qui est en date aujourd'hui, à ce jour, pardon, donc qui s'appelle Les Secrets de l'Oppidum, où là non seulement il va se transporter, mais bizarrement il va transporter également un animateur télé avec lui, donc il comprend pas du coup comment ça se fait qu'il n'y a pas que lui que ça arrive, cette espèce de malédiction. Donc on a une histoire fil rouge qui sous-tend les albums, c'est-à-dire bah, comment ça se fait que Agar ait cette possibilité là, avec toujours cette volonté de présenter des sites patrimoniaux, de présenter également l'histoire, parce que dans le tome 3, on rencontre César. Jules César qui est également dedans. Donc c'est vraiment très très bien fait. C'est pointilleux, sans être trop exhaustif aussi. Il ne faut pas non plus que ce soit un documentaire déguisé destiné aux enfants, parce que sinon, bah, c'est chiant. Il y a des BD qui existent comme ça, et c'est des pavés textes, des techniques pour mettre beaucoup beaucoup d'explications, alors que là non, pas du tout, l'équilibre est vraiment très très juste. Ceux qui veulent les explications, bah ils peuvent lire la dernière planche, puis ceux qui veulent pas, bah ils la lisent pas.
Ça fait penser un peu à ce qu'on regardait quand on était gamin, t'avais le dessin animé et la petite chose à la fin, ouais, qui était pédagogique, c'est style l'inspecteur Gadget ou les mini pouces.
T'es d'or aussi avec le petit documentaire,
ouais,
à la fin de l'épisode.
Ouais. Tout à fait, ouais.
Mmh. Ouais, ça fait penser à ça, donc c'est vraiment, puis la version dessinée en plus un format qui est un peu plus petit que le format classique de la BD franco-belge, donc c'est plutôt facile à mettre dans un sac ou un cartable. Honnêtement, ça vaudrait le coup pour les écoles de l'avoir, je pense, dans leur bibliothèque aussi. C'est vraiment très très bien foutu. Là, c'est une bonne chose, à mon sens, que les éditions de La Gouttière aient repris la série pour la sortir du coup du département de la Somme et que ça touche vraiment le public national. C'est vraiment très très bien fait. Moi, au niveau de ce qui est sorti en jeunesse sur ces dernières semaines, c'est vraiment mon gros coup de cœur. C'est top, franchement, là, c'est vraiment une très bonne série.
64 pages pour ce type de format, ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal, hein. Puis ça, honnêtement, ça se lit bien, hein. Ça lit vraiment très très bien.
Je voulais revenir au manga, parce que Dragon Ball est quand même une de nos grandes fiertés internationales. Et Dragon Ball, bah vous savez, c'est déjà fini, hein, l'histoire de base, mais c'est la deuxième fois que ça ressort en presse.
Et on parle bien que de Dragon Ball, on va pas lancer le sujet qui fâche avec Dragon Ball Super.
Super, voilà. Là, les éditions, alors ça doit être Hachette, tout à
oui,
fait,
c'est ça.
Qui reprend dans un format comme Naruto. Très grand format, couverture souple. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc je me suis pris le premier, sachant que je l'ai déjà, vous en doutez bien, que je l'ai dans la version de chez Glénat. Et là, on se retrouve, première histoire, la rencontre de Bulma, le papy, tortue et tout ça.
Il y a les pages couleurs, en fait,
ouais,
qui sont
couleurs,
la version originale. Qui ont été retravaillés là du coup par avec une petite page qui est mal passée là, mais qui ont été remises dans du coup chez cette édition chez Hachette en effet. Alors ça se fait de plus en plus parce que nos amis du Lézard Noir le font aussi, hein, quand ils peuvent mettre les pages chromées. Naban le fait également, hein, sur Arion. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un produit traduit dans notre langue qui est très très proche du produit originel, en fait. Mmh. Ça c'est chouette, avec une bonne traduction, hein, parce qu'il me semble que c'est Fédois qui l'a fait celle-ci, qui avait repris la traduction de Dragon Ball. Donc c'est mais c'est vrai que du coup ça fait un... ouais. Et puis le papier est pas dégueulasse en plus,
ouais,
hein,
c'est un très bon, ouais, papier. À la fin du livre, bah, vous retrouvez les couvertures d'origine. On a des petits jeux aussi, alors bon, c'est pour les plus jeunes, hein, bien sûr, mais il y a des petits jeux, il y a des petits trucs sympathiques, et vous avez un poster à chaque fois détachable, qui est...
c'est chouette.
Pour ceux qui veulent un objet sympa, le mettre sous verre, je pense que c'est un bon truc, donc pour une fois que ça ressort... Eh ben écoutez, c'est ça. Oui, oui, on voit bien que c'est bien monsieur...
Madame.
c'est madame.
Fédois la Marnière qui fait...
Qui fait le...
La traduction.
La traduction.
Qui a refait la traduction, en fait, avec c'était à partir de la deuxième ou troisième réédition de Dragon Ball chez Glénat. Elle m'avait expliqué, en fait, elle était par hasard, avec un chat, en fait, en discutant, elle avait vu qu'il y avait des choses qu'on pouvait améliorer dans la traduction, elle avait proposé, et de fil en aiguille, une personne de chez Glénat qui l'a rencontrée en proposant des planches, comment vous me traduirez ça. Elle lui a fait, et puis finalement, bah tiens, banco, tu vois. Et d'ailleurs, Fédois s'est mis au dessin. Elle a une série qui est éditée chez Glénat, du coup, wow. Ce qu'on appelle du manga français. Et donc elle fait son petit bonhomme de chemin. Fedwa, on la retrouve souvent dans les conventions et festivals, même au festival de la baie d'Angoulême, elle était présente. Et même dans les petits festivals, parce que ce qui est bien, c'est que quand on... Enfin, vous savez, si vous suivez le Geek C'est Chic depuis la création, qu'avec Alexandre, on fréquente assez régulièrement les festivals, surtout quand ils sont dans notre secteur. Et il y avait une journée à Rufec, autour du manga, qui est organisée par une association locale, elle était venue. Elle était venue, Fedwa, et ouais, c'était vraiment sympa déjà de, ouais, qu'elle fasse le déplacement, et toujours très, très sympathique, et toujours l'envie de partager sa passion avec les... Avec les plus jeunes notamment. Et du coup, ça coûte combien ça, mon Alex, le Dragon Ball nouvelle édition chez Hachette?
Ah bah, le premier était à 3,99€.
Ah bien.
Donc, ce qui est plutôt correct. Après, je pense qu'on sera dans les 12-15€.
Ouais.
Je pense que voilà, c'est ce genre de prix à peu près. Ouais. Punaise, t'as un de ces pavés là. Mais qu'est-ce que c'est que donc?
Alors, je vous rassure, il parle uniquement du livre que j'ai dans les mains. Le. Bah, voilà. Si vous rappelez, j'aime bien essayer de perturber Alex quand on est devant le micro. Et tu tiens bon, on vous gratte. On voit que l'année de pause, ça fait du bien. On voit que ça fait du bien, l'année de pause. Hein. Alors oui, c'est un gros pavé. Et oui, il y sera, il y aura trois gros pavés. Et j'envoie un énorme bisou à toute l'équipe de Naban. Donc une nouvelle maison d'édition qui a ses 4 ans maintenant. Ça y est, ça y est, ça y est. Les 4 ans de Naban, on y arrive. Et Naban qui était au Festival d'Angoulême cette année. Juste à côté du stand de Jérôme Alki en plus, donc c'était sympa de pouvoir les rencontrer. Et Naban, ce que j'aime beaucoup dans leur catalogue, alors c'est une petite maison d'édition, on les trouve pas forcément toujours dans les librairies. Alors nous on a la chance, on m'a tout lu, quand ils les reçoivent pas on les commande et on les a quasiment aussitôt, c'est génial. Et ils ont une double politique, c'est-à-dire faire connaître des titres pas forcément commerciaux, mais dont ils sentent un potentiel par rapport au lectorat français. Et des titres dits patrimoniaux. Alors, le manga patrimonial, en termes de définition, c'est un petit peu complexe parce que les auteurs et les spécialistes de la bande dessinée ne sont pas forcément d'accord là-dessus. D'ailleurs, l'avant-dernier numéro des Cahiers de la bande dessinée avait fait un dossier consacré à ce qu'était le manga patrimonial, un dossier passionnant. Si vous avez l'occasion de lire ce magazine, franchement, faites-le. Et donc, en gros, le manga patrimonial, ce serait des titres ou des auteurs qui auraient... à un moment donné dans l'histoire du manga contemporain, donc à partir des années 50-60, créer quelque chose de marquant dans l'histoire de cette bande dessinée et de ce genre-là. Et parmi les auteurs qui ont marqué l'histoire de la BD japonaise, on a Yoshikazu Yeshuhiko. Alors en France, on le connaît très très peu. Alors, quand je dis on, c'est-à-dire le grand public, mais c'est pas grave. Les plus pointus dans l'animation japonaise le connaissent. Parce qu'on a eu, nous, en France, d'abord les versions animées de certains de ses travaux. À l'époque, chez Kazé Animation, quand ils avaient sorti les collections de DVD pour faire connaître autre chose que les gros titres commerciaux édités ailleurs, on avait eu Arion. Et on a eu Venus Wars également. Et c'est lui qui avait fait le character design et l'histoire. Et à ce monsieur, on lui doit également l'intégralité de Gundam. Alors Gundam, c'est quasi inconnu en France, sauf dans les années 2000, où on a eu une extension, un spin-off qui s'appelait Gundam Wing, qui était passé sur M6 en plus. Une modification de générique avec une petite voix off qui était en trop, mais la version de base, elle est inconnue, sauf parmi les rares qui, comme votre serviteur, ont réussi à mettre la main sur le coffret DVD de chez Biz à l'époque où on avait la refonte de la série en 3 films. Sinon, on l'a jamais vu, la série de base animée, ni la version BD. Et Naban a réussi à négocier avec l'auteur les droits de certains de ses mangas, et le premier à sortir, c'est Arion. La relecture d'un mythe, parce que Arion dans la mythologie grecque, c'est un cheval. Là ici, c'est un jeune homme. Donc Arion, fils de Déméter, est enlevé par Hadès qui va l'entraîner au royaume des enfers. Il y grandit et devient un vaillant guerrier. Mais Hadès le manipule parce qu'il va s'en servir pour essayer de faire tuer ses deux frères, Poséidon et Zeus. On est sur la quête initiatique dans la Grèce antique et avec des combats, mais vraiment des planches, vraiment... Enfin, Alex ne connaît pas, mais je vais juste lui montrer quelques... Il va feuilleter. On a des planches qui sont très très bien travaillées, qui sont vraiment dans le style du genre de manga qu'on appelle le Gekiga, donc ce genre de manga adulte plus travaillé, qui s'est beaucoup inspiré du découpage cinématographique, avec un jeu sur les ombres aussi et sur les trames qui est super impressionnant, qu'on ne retrouve plus en fait dans le manga commercial actuel. Et Naban nous fait vraiment le cadeau de faire trois gros volumes. C'est-à-dire que là, on en a pour son argent hein, quand on prend le tome. Et à la fin, vous avez des bonus. C'est-à-dire, on a les pages colorées également dans le tome 2. On a la galerie des personnages et les croquis des personnages dans le tome 1. Avec des extraits de l'interview de l'auteur aussi, donné à certains magazines comme Animage à l'époque. Dans le tome 2, le bonus, c'est son carnet de route qu'il avait fait lorsqu'il était parti voyager en Grèce antique et en Turquie pour les repérages de Arion. Et c'était la première fois qu'il sortait du Japon, donc il était super content de voir ça. Les couvertures sont super chiadées. Alors si vous allez sur les réseaux sociaux, faites un petit tour également sur le compte de Naban, parce qu'il raconte énormément de choses. Et surtout, ils ont, à l'époque de la publication du tome 1, raconté comment est-ce qu'ils avaient travaillé à partir des planches originales. Donc il y a un travail énorme de scan, parce que le matériel, il date du début des années 80, c'est quand même assez impressionnant. Donc les planches n'étaient pas forcément dans un bel état de conservation. Il y a eu un travail de numérisation sans abîmer le matériel de départ qui était très colossal. Un travail de traduction pour ne pas trahir l'état d'esprit d'origine de l'histoire, tout en étant adapté à un lectorat actuel. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qu'on utilisait à cette période-là, qu'on ne peut plus utiliser maintenant, elles sont obsolètes, mais avec quelque chose d'approchant qui peut être compréhensible par les lecteurs d'aujourd'hui. Donc en termes de traits, on reconnaît tout de suite la patte, hein, c'est-à-dire que au niveau visuel, quand on voit le design d'Arion, on a en tête des personnages de Gundam, on a Venus Wars, dont je croise les doigts pour que la version papier arrive très très vite, parce que c'est un énorme récit de science-fiction. Mais si vous aimez les histoires mythologiques, les quêtes initiatiques, les histoires de trahison, on est vraiment sur une très très belle adaptation d'un mythe, sauce manga forcément, mais un bel objet de fusion culturelle en fait. Et c'est vraiment super. Un gros gros merci à Christophe Geldron, donc le PDG de Naban Édition, qui a réussi à mettre la main sur cette pépite. Et en plus, on a une belle surjaquette là, qui est vraiment bien travaillée, c'est de toute beauté.
Oui, 400 pages, format comics. Un gros paiement au film.
Ah oui, face à moi, de toute façon, pour moi, il faut posséder les deux, c'est une évidence. Mais d'avoir ce format-là, avec cette qualité de papier, cette qualité d'impression.
Oui, tout à fait, ouais.
Là, il y a un énorme travail de chez Naban. Alors, Naban, allez feuilleter leur catalogue, vous serez agréablement surpris.
Hein, moi, je suis surpris aussi, c'est que quand je repense au premier Albator. Où le noir est quand même dégueulasse. Mmh. Bon, on parle de choses qui ont 15-20 ans. L'édition française est récente, mais l'édition japonaise aussi, par rapport à un Albator. Mais je vois que la qualité, elle est quand même...
Elle est là.
Derrière, il y a une super qualité.
Ah ouais, ça, ils sont...
Et en plus, ce qui est bien, c'est en 3 tomes. C'est pas des trucs qui vont... 21 balles, c'est pas non plus excessif.
Non, pour la qualité, c'est pas excessif du tout. C'est vraiment...
Et puis, vous êtes sur quelque chose, je trouve, qualitatif et pas long. Je veux dire, 400 pages, c'est 400 pages, mais on se dit, en 1200 pages, vous avez une histoire qui est complète, qui est finie, pas comme des trucs qui vont vous emmener, je sais pas, comme un détective Conan sur plus de 100 tomes, où c'est toujours pas fini, ou un One Piece, où à chaque fois, on en rajoute. Et là, si vous aimez les histoires courtes, alors quand je dis courtes, 1200 pages, c'est pas court non plus, quoi. Mais où il y a un début et une fin assez rapidement, jetez-vous dessus.
C'est l'exemple de manga à donner aux détracteurs, parce qu'il y en a encore malheureusement de cet art-là. Mm. Alors j'ai eu l'occasion de le présenter en librairie, ce titre, et les plus jeunes qui étaient devant, c'est vraiment eux qui étaient les plus intéressés. Du coup, parce qu'au niveau du design, ça change par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de lire actuellement. Et qui posait énormément de questions en fait sur le mythe ou sur l'intrigue. C'était plutôt passionnant de voir que du coup contrairement à ce qu'on peut penser, ce que certains peuvent penser sur les frontières de culture ou également sur les frontières qu'on a dans le lectorat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de notre zone de confort de lecteur, non, il y a quand même des lecteurs qui sont curieux, c'est aussi le but de l'émission, de faire découvrir des tas de trucs. Mais honnêtement, Arion, ça vaut vraiment ça. C'est pour n'importe quel fan de BD japonaise, c'est quasiment une obligation en fait de l'avoir dans sa mangathèque. Hein.
Oui, je confirme. Eh bien écoutez, merci de nous avoir écoutés. Ce fut un vrai plaisir de pouvoir reparler bande dessinée et passion avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Johan, ça fut un plaisir.
C'est cool. C'est toujours sympa de revenir à nos premiers amours de la radio, hein, parce qu'on s'était. Toi, t'étais resté à la radio. Hein, de toute façon, t'étais resté. Moi, j'étais parti sur d'autres plateformes. Essayer d'autres trucs complémentaires.
Complémentaires
à la radio. Hein, donc, vous pouvez nous retrouver sur plein de plateformes. Hein, la page Facebook de Geek C'est Chic, elle est réactivée. Oui. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou dessus. Je vous fais plein de gros bisous, barbus, et on se retrouve la semaine prochaine.